Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, chers couples, déjà qui viennent renouveler la promesse de leur mariage, mais aussi les fiancés, si le pape Saint Jean-Paul II a décidé de faire de ce deuxième dimanche de Pâques le dimanche de la Divine Miséricorde, c'est d'abord parce qu'une de ses compatriotes, Sœur Faustine, avait été canonisée en l'an 2000. Sœur Faustine qui a eu la vision de ce Christ que vous voyez là. Christ, la Divine Miséricorde. Et c'est d'abord pour cela qu'il a institué, mais aussi... Et lorsqu'on lit les attendus qui ont entraîné justement cette fête, lorsqu'on lit tout ce que le pape Saint Jean-Paul II avait écrit, on comprend très vite qu'il avait repéré quelles étaient les attentes de notre monde, les attentes de ses contemporains et finalement nos attentes. Et quelle est cette attente principale? Eh bien, le monde a besoin de miséricorde. Nous avons besoin de miséricorde. Nous avons besoin de recevoir cette miséricorde et de vivre de la miséricorde. Et c'est ce que Saint Jean-Paul II avait compris. Alors, on va essayer de comprendre comment cette miséricorde, aujourd'hui, peut nous aider à grandir dans notre vie fraternelle, mais principalement aussi dans votre vie de couple. Comment cette miséricorde est à la source et au fondement même de l'amour. Essayons d'abord de repérer dans la Bible cette miséricorde. Il y a deux mots hébreux qui correspondent à la miséricorde, le mot « rahamim » et le mot « esed ». Chacun a sa particularité. Le mot « rahamim » signifie davantage les entrailles d'une mère qui a porté un enfant, mais les entrailles aussi d'un père, les entrailles d'un frère, d'une sœur qui voit son frère ou sa sœur dans le besoin. Les entrailles, ça veut dire que c'est cette tendresse que l'on éprouve ou cette compassion que l'on éprouve lorsque quelqu'un que l'on connaît est en difficulté, lorsque quelqu'un que l'on connaît est dans la peine ou la misère. Cette pitié que l'on éprouve en quelque sorte, mais plus que cela, qui nous prend aux entrailles et qui fait que l'on se porte à son secours. Rahamim signifie cela. Et nous avons en nous, bien que nous soyons parfois dans une société de consommation qui nous fait comprendre que seuls sont intéressants ceux qui sont capables de consommer, en quelque sorte, donc les malades ou ceux qui sont dans des hôpitaux ou ailleurs sont moins intéressants, en quelque sorte, ou n'existeraient moins. Nous sommes dans une société de consommation qui peut nous pousser à l'indifférence, à refuser de voir, justement, celui à qui nous pourrions porter secours. Et pourtant, cette société a beau nous faire croire cela, il y a au plus profond de notre être nos entrailles qui réagissent lorsque nous sommes face à une situation, lorsque nous sommes témoins d'une situation difficile pour un de nos frères. Donc, rahamim, les entrailles. Et puis, il y a un deuxième mot qui vient compléter la richesse de ce mot miséricorde, c'est le mot esed. Et là, nous sommes davantage dans le sentiment de fidélité. L'esed, c'est celui ou celle qui se porte au secours d'un autre, non pas parce qu'il est ému aux entrailles, mais en fonction d'une cohérence de vie, en fonction d'une promesse qu'il a faite, en fonction d'une alliance qu'il a conclue. Nous voyons donc davantage une bonté qui est davantage consciente. On pose un acte de volonté. On vient au secours de l'autre parce qu'on a fait alliance avec lui, parce qu'on est lié à lui ou à elle de différentes manières. Ce n'est pas uniquement un acte de bonté instinctif qui nous pousse à aider l'autre. C'est plus que cela. C'est un acte de volonté. Et là, on voit bien toute la richesse du mot miséricorde. Car nous pouvons parfois même être trompés par des instincts de miséricorde que nous pouvons avoir. Il nous faudrait aider le monde en entier. Non. Nous aidons les gens. Et nous nous aidons parce que nous avons une vision de l'être humain. Nous ne pouvons pas passer devant notre frère sans le soutenir. Nous aidons les gens parce que nous avons fait alliance avec notre conjoint, parce que nous avons choisi ou rechoisi nos enfants, parce que nous avons choisi une association ou peu importe, une paroisse. Nous nous aidons. Et nous voyons que cette miséricorde qui nous vient de la Bible, elle nous est bien sûr d'abord enseignée par le Seigneur. Lui seul nous dit ce qu'est la miséricorde. Lui seul vient au secours de son peuple et va lui accorder cette fidélité, cette miséricorde fidèle tout au long de l'histoire sainte, parce qu'il a fait alliance avec lui. Et parce que le Seigneur a été miséricordieux avec nous, parce qu'il renouvelle son alliance à travers son Fils Jésus et en nous donnant son Esprit, nous pouvons à notre tour être miséricordieux et faire preuve de miséricorde. Le Christ nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père a été miséricordieux. Alors vous serez véritablement les fils de votre Père. » Nous devons donc apprendre de Dieu ce qu'est la miséricorde. Et c'est là où nous comprenons, et c'est ce que nous dit Saint Jean-Paul II, nous comprenons que la miséricorde est l'attitude fondamentale de tout chrétien, de tout couple, de tout paroissien. Parce que c'est l'attitude qui permettra de faire grandir les couples, les familles, les paroisses dans la communion fraternelle. C'est la source et le fondement de toute communion fraternelle. Dans la miséricorde, nous pourrons grandir ensemble. Ainsi, en couple, et vous le comprenez chaque jour, vous devez essayer de cultiver cette miséricorde. Saint Jean-Paul II disait que l'amour avait inventé le pardon pour durer. Eh bien, nous le comprenons. Parce que vous avez fait cette promesse le jour de votre mariage, parce que cette promesse guide votre sacrement de mariage, tout doit être vécu, dit et fait en fonction de la miséricorde. Et c'est ainsi que vous pourrez durer. C'est cette promesse qui vous pousse en quelque sorte chaque jour à vivre de la miséricorde, à demander à l'autre des petits pardons chaque jour pour mieux recevoir sa miséricorde et vous l'échanger. C'est important et c'est essentiel à votre vie de couple. De même, vous les fiancés, vous savez ce qu'est déjà la miséricorde. Chaque jour, apprendre à vivre de petits pardons, des petits pas de miséricorde, pour rentrer vraiment dans cette miséricorde de Dieu. Et très vite, vous avez compris que cette miséricorde était souvent au-dessus de vos forces. Et c'est ce que nous entendons dans cet évangile. La miséricorde, la vraie, celle qui fait durer une vie de couple, une vie de famille ou de paroisse, elle nous vient de Dieu. Nous voyons Jésus qui rentre dans cette pièce et qui, dans la pièce, et qui dit « La paix soit avec vous ». Ce n'est pas qu'une simple formule de politesse, comme on pourrait dire « Shalom ». Non, la paix soit avec vous. La paix de Dieu soit entre vous. C'est lui qui nous la donne. Et c'est inouï. Il va même souffler sur ses disciples, sur ses apôtres, pour bien signifier que c'est l'Esprit Saint, c'est son Esprit Saint qui leur permettra de vivre de cette miséricorde. Cet Esprit Saint que nous recevons, que nous avons reçu à notre baptême, que nous pouvons recevoir régulièrement, que nous avons reçu à notre confirmation, nous permet de vivre dans la miséricorde et de cette miséricorde. Nous avons donc besoin de recevoir la miséricorde de Dieu pour nous la communiquer et la transmettre. Cette miséricorde, nous l'avons demandée et nous la demandons à chaque début d'Eucharistie, durant la préparation pénitentielle. Nous demandons au Seigneur de venir nous pacifier. Nous demandons au Seigneur de venir unifier toute notre vie qui parfois semble un peu éparpillée. Nous lui demandons de venir en nous et nous allons recevoir sa vie. Nous nous préparons à recevoir sa vie, recevoir sa miséricorde, afin de pouvoir la transmettre aux autres. Et la miséricorde, dans un troisième temps, nous le voyons aussi dans cet évangile, nous permet d'atteindre un niveau de foi plus complet. Nous voyons comment Thomas avait besoin de voir pour croire. Eh bien, cette miséricorde, la joie de Dieu, la paix va entraîner la joie, c'est-à-dire cette confiance renouvelée dans le Seigneur va lui permettre de croire sans voir. Et c'est souvent une question que les couples peuvent se poser. Comment puis-je vraiment croire en son amour? Comment puis-je vraiment croire qu'il m'aime alors que j'ai parfois moins de preuves? Et comment même, parce qu'on nous fait douter de tout aujourd'hui, comment même croire que les preuves d'amour qu'il me donne ou qu'elle me donne sont vraiment signes de son amour? Parfois, on cherche à nous faire douter de tout. Eh bien, nous devons aussi rentrer dans cette foi en l'autre. Et la miséricorde nous permettra de nous rechoisir régulièrement et de rentrer progressivement, parce que nous avons fait cette promesse ensemble, de rentrer dans cette confiance totale en l'autre. Cette confiance qui ne demande plus des actes ou des paroles en permanence, cette confiance qui nous est donnée par le Seigneur. Nous rentrons dans cet amour véritable, dans cette confiance. Je terminerai par les premières paroles que le pape Saint Jean-Paul II a dites au début de son pontificat. Il a dit au monde entier, n'ayez pas peur. Chers couples, chers fiancés, chers paroissiens, n'ayez pas peur de vivre dans la miséricorde, d'ouvrir la porte de la miséricorde, alors vous pourrez entrer dans la joie de Dieu.